Et maintenant, c'est l'heure du rendez-vous de midi sur Radio Circa.
Les rendez-vous du midi.
Rendez-vous de midi. 103.5.
Rendez-vous de midi sur Radio Circa en direct live à la maison de Gascogne, la radio des circassiens. Et donc, pour cette émission, cette nouvelle émission des rendez-vous de midi, nous avons plusieurs invités, notamment Philippe Saunier et Borel, qui est co-directeur de Pro Nomade, Centre national des arts de la rue de Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour.
Un autre invité, Benoît Rivière de l'ADA 32, donc du Gers. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'ADA, je rappelle que c'est l'association départementale pour le développement des arts. Et donc vous êtes présent et vous avez organisé notamment dans le cadre du festival ou un peu en aparté du festival une rencontre professionnelle, n'est-ce pas ?
Alors aujourd'hui, on est effectivement partenaire de Circa, mais Circa est le promoteur principal d'une rencontre qui a lieu toute la journée au Conseil Général dans le cadre de Circa en campagne, qui est une campagne de débat organisée par Territoire de Cirque. Donc tout ça, c'est un maillage de structures qui coopèrent pour amener de la réflexion sur, en l'occurrence, le thème d'aujourd'hui, c'est développer les publics du cirque contemporain.
Voilà, vaste question. On rappelle aussi que on recevra des journalistes dans cette émission et qui porteront leur regard sur le cirque actuel. Et puis également une interview, un regard croisé, n'est-ce pas Fred ?
Voilà, un nouveau rendez-vous où on demande à des gens qui ne sont pas issus ni du spectacle vivant ni du cirque de porter leur regard sur des spectacles. Et donc aujourd'hui on recevra donc à la fin de l'émission Isabelle Cochetier qui est psychologue et directrice de la Maison des Ados ici à Auch, et qui est allé voir plusieurs spectacles et qui nous apportera donc son regard singulier sur les propositions artistiques du festival. Mais on va peut-être déjà commencer avec les invités qui sont autour de la table, peut-être avec Philippe Saunier-Borel, donc de Pro Nomade. Alors en préparant cette émission, on a eu notre langue qui a fourché, et de Pro Nomade, c'est devenu Promenade. Évidemment.
Et c'est fait un peu exprès.
Et voilà, donc peut-être que cette promenade, donc vous pouvez nous la raconter un petit peu, dans ses grandes lignes, elle a une longue histoire, la promenade de Pro Nomade.
Oui, c'est un bon. On mène sur la Haute-Garonne un projet culturel depuis bientôt 18 ans ou 20 ans, qui est d'inventer, oui, dans l'itinérance, des rendez-vous singuliers, des rendez-vous, c'est créer des moments de possible sur un territoire qui le revendique même plus, puisqu'on est quand même toujours dans une période où l'accès à la culture n'est plus vraiment une priorité, n'est plus vraiment une priorité dans le discours politique, et à tel point que même dans la tête des gens, l'accès, le droit, un droit de regard sur les formes de la création d'aujourd'hui n'est même plus revendiqué. Mmh. Et donc, le projet même de Pronomade, avant d'être des moments de diffusion, avant d'être un lieu qui accueille, qui coproduit les formes de spectacle qu'on appelle les arts de la rue, mais on a une notion très extensive des arts de la rue.
On va peut-être en parler, justement.
Si vous voulez. En tout cas, le projet de Pronomade, c'est se dire, là où on habite, nous, on habite le sud de la Haute-Garonne, sur un territoire rural. Et ce n'est pas un désert, il y a plus de 90 000 habitants sur la zone qu'on irrigue dans tous les sens. Ces habitants-là ont droit de voir les formes de la création d'aujourd'hui, que ce soit la danse contemporaine, le cirque, les arts de la rue, le théâtre textuel, le théâtre contemporain, les installations, les détournements poétiques. Ils ont droit à tout ça. Et c'est ce travail qu'on mène avec les politiques, c'est-à-dire avec les habitants et donc les politiques du territoire, comment, sur leur légitimité démocratique, on invente avec notre légitimité professionnelle, et là on concède rien, c'est-à-dire qu'on ne fait pas choisir les spectacles, c'est nous qui invitons, c'est nous qui inventons avec les habitants, pour les habitants, on invente ces moments de possible, c'est ça le projet.
Et concrètement, ça se passe comment du coup avec les habitants, avec les municipalités, ça se passe comment ?
Oh ben là, il y a différents niveaux de réponse. Avec les communautés de communes, puisque maintenant, quand on travaille sur un territoire, nos interlocuteurs naturels, ce sont les communautés de communes. on habite de moins en moins un village, on habite un bout de territoire. Moi, j'habite un tout petit village, mais mes enfants vont à l'école dans l'autre village. J'achète mon pain. On habite comme on habite un quartier. Donc, nos interlocuteurs sont des communautés de communes. Et ça marche sur du désir exprimé. C'est-à-dire, c'est jamais nous qui allons... On a une mission donnée par l'État. Le premier financeur du Centre national, c'est l'État, puis la région, puis le département. Et on joue sur un... Alors, un principe qui reste toujours d'actualité dans la tête de certains de nos dirigeants, c'est un vieux principe, c'est la notion de décentralisation, d'aménagement de territoire. Nous, on est des enfants de cette pensée-là et on plaide pour la solidarité territoriale. Comment, quand on habite sur un petit bout du Comminges où il n'y a pas les moyens d'avoir un projet culturel, ben c'est là que doit jouer la solidarité, qu'elle soit nationale par le ministère, régionale ou départementale, pour qu'on puisse voir là 111, pour qu'on puisse voir là une création du FUN et qu'on puisse voir là Castellucci. Mais jamais ce territoire n'en aura les moyens. Jamais ce territoire n'aura eu ou n'aurait pensé avoir les moyens d'accueillir un centre national. Et Pronomade est le seul centre national pour l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Il se trouve être en Midi-Pyrénées, mais il se trouve être en Midi-Pyrénées, non pas à Toulouse, comme tous les éléments structurants, sauf pour la piste où Circa est bien ici, et c'est pas Toulouse qui a eu le pôle national. Et c'est pareil pour les arts de la rue, c'est pas Toulouse non plus. Et que là, il y a un vrai choix politique, que ça soit de l'équipe de Martin Malvy, de Pierre Rizard pour la Haute-Garonne, ou du ministère de la Culture, de se dire que encore, on peut encore rêver, et encore, les éléments structurants pour la culture sont pas forcément dans l'agglomération qui aspire tout. Donc c'est là, et c'est comme ça que ça se passe pour répondre à la question avec les communes, ou communautés de communes. C'est sur ce désir, cette envie politique de se dire là où on vit, on a droit également à un projet culturel qui fait que nos journées de travail sont des vraies journées de vie. C'est sur ce territoire-là, ils en expriment l'envie et après, ensemble, on interpelle les autres partenaires publics.
Alors là, c'est une belle réponse.
Oui.
C'est la réalité. Ça
c'est la réalité.
Que je la vis, quand même.
Oui, oui.
C'est pas de la théorie.
Non, je dis que c'est pas de la théorie, mais je sais aussi que cette histoire, elle a été aussi heurtée à certains moments pour Pronomade. Il y a eu des moments de rupture, me semble-t-il.
Oui, mais en même temps, c'est pour
lier les choses au fait que effectivement, il faut engager le débat, la discussion avec les partenaires politiques, évidemment, qui sont les élus. Mais en même temps, voilà, ça peut aussi, par moments, fragiliser certains projets.
Oui, non. C'est-à-dire que si vous faites référence, mais c'est une vieille histoire, elle a déjà plus de 10 ans, mais si vous faites référence à l'époque de 2001 à Saint-Gaudens.
Exactement.
Où de 92 à 2001, je dirigeais les services culturels, le théâtre municipal de cette sous-préfecture, où il y a une alternance politique, parce que la démocratie, ça repose sur l'alternance, et que nous sommes tombés. Mais j'avais promis au maire qui venait d'arriver que je resterais, que lui partirait. Il est déjà plus maire, et je suis toujours directeur d'un centre national au même endroit. Mais il se trouve qu'on peut tomber sur des gens qui n'ont pas la même conception de l'action culturelle, ou du sens de la culture, ou voire même du rôle d'un ministère de la culture. Il se trouve que je suis tombé nez à nez avec cet homme-là qui a tenu des propos sur la culture que seul le Front National a tenu sur la culture. Donc évidemment, on n'avait pas grand-chose à se raconter. Évidemment, il m'a licencié. Mais évidemment, le projet, parce qu'il y avait un désir du territoire, l'ensemble du territoire, et ça a même donné la force au projet, l'ensemble du territoire sans la ville gouvernée par cet homme qui n'est plus rien aujourd'hui, tout le territoire sud de la Haute-Garonne a porté ensemble un projet qui le dépasse. Ce projet, et c'est ça la force de ce projet, c'est qu'on n'en a pas la maîtrise. On n'en a pas la maîtrise artistique, on n'en a pas la maîtrise financière, on n'en a pas la maîtrise territoriale. Et que même si la sous-préfecture du coin se retire pour des raisons politiques, l'ensemble du territoire le porte malgré tout. Et c'est parce que c'est maillé, parce que c'est aussi serré que même la sous-préfecture ne peut pas arrêter un tel projet lorsqu'il y a une envie. Par exemple, lorsque ce maire, j'en parle plus parce que c'est il y a 10 ans quand même, l'actualité elle est plus là.
Oui, mais c'est pour illustrer justement la force aussi d'un projet et le maillage, parce que la particularité, l'originalité de Pronomade, c'est quand même autour de ce maillage dès le départ. Donc c'était pour ça que je voulais vous entendre là-dessus.
Face à cette position-là, par exemple, il y a eu deux grandes manifs à Saint-Gaudens. Il y a eu une manif où il y a eu 2000 personnes pour le départ de Elf, qui était la raison, un des leviers économiques du territoire. Et la seconde manif, c'est pour la position sur la culture. C'est très rare. Il y a 800 personnes qui ont manifesté dans les rues de Saint-Gaudens pour que le projet continue. Et c'est parce qu'il y avait ces 800 personnes qu'on n'a pas été balayé par ce souffle d'extrême droite qui régnait sur Saint-Gaudens.
Alors justement, on va parler plus précisément, avant de donner la parole aussi à Benoît Rivière, qui justement en termes d'action culturelle en milieu rural, le vit aussi au quotidien. Mais revenons justement au début, à cette originalité de Pronomade qui existe encore. Pourquoi avoir choisi dès le départ cette volonté d'itinérance dans les propositions artistiques et aussi dans la rencontre, j'imagine, avec les différents publics du territoire que vous couvrez?
Parce que c'est, alors ça c'est au-delà des arts de la rue, c'est comment, là où habitent les gens, c'est faire de la culture, non pas, je crois pas à la culture événementielle, je crois que la culture doit exister dans le quotidien, dans la proximité. Comme tout le monde, j'allais dire, quand on est dans les arts de la rue, j'ai eu un festival de rue, parce que les arts de la rue n'existent que dans le ghetto et le rythme de l'été. C'est une forme festivalière, voilà. Et avec Marion Vian, qui co-dirige Pronomade avec moi, on s'est dit que ce secteur méritait une meilleure attention et que les arts de la rue ne sont pas condamnés au simple festival. Et que la culture n'est pas événementielle. La culture doit venir nourrir les gens dans la régularité, dans la proximité, dans leur vie au quotidien et non pas simplement 3 jours l'été, début juillet. J'ai mené pendant 7 ans un festival sur la folie. J'étais très content d'inventer la Saint-Gaudingue, mais j'étais très content également de l'arrêter pour que, durant toute l'année, la semaine dernière, il y avait 4 rendez-vous dans le Comminges de théâtre. La semaine prochaine, il y en a 2 autres. C'est au quotidien, les gens ne doivent pas attendre la première semaine de juillet pour voir les formes du spectacle. Et les inventer dans cette régularité, mais également dans la proximité. C'est parce qu'on est tout près de chez eux, c'est parce qu'on est dans telle salle des fêtes, sur telle place, dans telle grange, c'est parce qu'on est chez eux qu'ils viennent. Et si on était à 10 km, ils ne viendraient pas. Et c'est comment on invente, non pas pour les gens, je pense qu'on est maintenant à une étape où on ne pense pas pour les gens, on pense avec les gens, et on pense avec les gens ces moments qui sont des moments de culture populaire, exigeante, mais populaire.
Et donc, à Pronomade, vous ne travaillez pas seul, hein, vous effectuez un travail en réseau avec d'autres scènes nationales sur le territoire, proche de votre territoire, notamment à Tarbes, à Foix, et puis aussi avec Hoche et Circa.
Bien sûr.
Et comment ça se passe?
C'est la même, je crois que c'est la même pensée, c'est se dire, alors là, plus largement, c'est-à-dire pas focalisé que sur le Comminges où on habite, c'est se dire, dans la moitié sud de la Haute-Garonne, lorsqu'il y avait ce qui nous réunit avec Marc Fouillant, pour ici bien sûr, Marie-Claire Rioux pour Tarbes et Michel Patenet pour Foix, ce qui nous rapprochait, c'est se dire, lorsqu'on voit des choses belles, indispensables, fortes dans le spectacle vivant, mais quand même très lourdes, si elles venaient en Midi-Pyrénées, elles iraient à Toulouse. Et que le bassin de population qu'on représente, c'est-à-dire le sud de Midi-Pyrénées, c'est 500 000 habitants. Donc c'est à peu près comme Toulouse. On doit se taper dans ce cas-là 1 heure ou 2 heures de voiture aller-retour pour aller voir Zingaro, pour aller voir... Voilà. On se dit qu'on était assez nombreux en termes de population et en termes de structure professionnelle pour accueillir ensemble des choses qui nous dépassent. Et donc on est tous les quatre allés voir Martin Mavi en lui disant « Nous, on souhaiterait rééquilibrer le territoire au-delà de ce qu'on fait individuellement. » Et que s'il y a des choses belles et indispensables, on souhaiterait qu'elles viennent ici.
C'est la décentralisation de la région. Décentralisation de la décentralisation.
Ça peut être une nouvelle vague, si vous voulez. Mais ouais. Je pense que l'aménagement du territoire, avec notamment les scènes nationales, les pôles cirques, les centres nationaux des arts de la rue, ça participe à ça. Mais en même temps, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'ensemble, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, isolément. C'est accueillir le répertoire d'une compagnie. C'est, par exemple, ici, cette année, c'est Camille Boitel et 111. 111 qui joue... ici, qui jouera à Tarbes et qui ira à Foix, ou Camille Boitel, qui est sûrement un des plus beaux spectacles, en tout cas que nous, Pronomade, on accueillera dans la saison. On verra ce que disent les autres, mais pour nous, c'est le spectacle indispensable qui parle du chaos, c'est un travail de corps et d'installation étonnant. Et seul, on n'aurait pas pu l'accueillir. L'idée, c'est que les habitants du sud de Midi-Pyrénées, ça ira également à Toulouse, donc c'est très bien pour les Toulousains, mais ça ira également dans le sud de Midi-Pyrénées. Et donc, les habitants du Gers, des Hautes-Pyrénées ou du Comminges pourront voir Camille Boitel, parce que sinon, ils n'iront jamais au Théâtre Garonne le voir. Et donc, ce choix politique de se dire, là, on habite, on a le droit, un droit de regard sur les formes de la création d'aujourd'hui sans devoir aller ou à Toulouse ou à Paris, c'est ça qui nous anime, c'est ça le réseau Sud.
Mais quand vous dites que vous ne seriez pas en capacité de pouvoir les faire venir, ça veut dire financièrement aussi ?
Aussi, ou par exemple, et financièrement, parce que là c'est un lourd spectacle, mais également, par exemple, il y avait un très beau spectacle que j'avais vu, c'était Romini, comment il s'appelle ? Rimini Protocole, qui se passait dans un camion. Et c'était un parcours à travers l'Europe. On était dans le camion, on bougeait, on avait l'impression de voyager à travers l'Europe. Et ça parlait de cette Europe ultra-libérale. J'avais vu Avignon, et donc on souhaitait l'accueillir dans le sud de Midi-Pyrénées. Et en même temps, j'en parle à un très très bon programmateur qui était à Toulouse, mais qui ensuite était à Bordeaux, à Richard Coconnier, qui à cette époque dirigeait le Théâtre National de Bordeaux. Qu'a fait Rimini Protocole depuis la Suisse et l'Allemagne, entre Bordeaux ou un petit village du Comminges, il a bien sûr pris Bordeaux. Si par contre, à 4, on interpelle en disant on est un réseau Sud qui réunit les scènes nationales de Foix, Tarbes, Auch et Pronomade, d'un seul coup, on a une réalité professionnelle qui fait que certaines compagnies qui spontanément viendront pas jouer au fin fond du Gers ou dans un village des Hautes-Pyrénées ou dans le Comminges, d'un seul coup, parce qu'on représente cette plateforme de diffusion et de production, d'un seul coup, nous regarde différemment ou nous regarde comme il a pu accepter d'aller directement au Théâtre National de Bordeaux ou serait allé au TNT. On est cette réalité professionnelle, on est ce bassin de population et donc on a une légitimité professionnelle au niveau européen pour faire venir des grandes productions. Voilà.
Alors Benoît Rivière de l'ADA du Gers, hier justement c'était un débat finalement ce dont on est en train de parler à Montaut les créneaux, la culture en territoire rural. Alors qu'est-ce qui s'est dit et quels sont les enjeux un peu aujourd'hui pour faire vivre la culture en milieu rural?
On va retrouver beaucoup de choses parmi ce que vient de dire Philippe, qui est très clair et en plus qui fait l'objet d'une expérimentation de long terme. L'essentiel, c'est premièrement que l'époque est bien terminée, de considérer que le territoire rural est un territoire désertique et désertifié. Deuxièmement, que on ne cherche plus à absolument vouloir calquer, je dirais, le fonctionnement en termes d'équipement, en termes de structuration, en termes de en termes de présence de certaines formes artistiques. On n'a rien à envier quelque part à ce qui se produit en milieu urbain et qu'il s'y passe d'autres choses. Et que ce qui s'y passe, ça permet à des formes artistiques aussi émergentes, nouvelles, à des artistes d'avoir des partis pris et de mener des propositions artistiques originales, spécifiques, et avec cette omniprésence de la question de la relation, de la proximité, de la relation avec l'habitant, et comment on bâtit un nouvel édifice culturel, en quelque sorte, beaucoup plus transversal, où certes, il y a besoin de professionnels, il y a besoin d'artistes, il y a besoin d'équipements aussi, bien sûr, en milieu rural, et dans le département du Gers, on est loin d'avoir accompli la carte de l'aménagement culturel du territoire. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que des expériences fortes, fortes au sens où elles laissent des traces artistiques et culturelles chez les habitants, chez ceux qui ont le plaisir de le fréquenter, eh bien ça, c'est vraiment ça nourrit, ça éduque. Le maître mot étant pour moi l'éducation artistique, quoi. Mmh.
Voilà. Alors comment la mettre en œuvre cette éducation artistique, ces actions culturelles en milieu rural, avec voilà des populations qui sont plus clairsemées, qu'on mène pas évidemment les mêmes actions en milieu urbain avec une population dense et en milieu rural. Alors comment quelles sont les pistes un petit peu actuelles si on peut les dresser?
Une des clés, c'est le réseau, c'est-à-dire la capacité de coopérer entre différents niveaux de responsabilité ou d'énergie, parce que là, on a un maillage quand même avec une grande proximité entre le professionnalisme ou les professionnels, qui sont quelques-uns seulement sur un territoire comme ici, et l'engagement qu'on appelle bénévole, mais qui est en fait citoyen, quoi, hein, de gens qui, de toute façon, ont besoin, ont envie. Donc, il y a tout un travail, de passerelles. Je prends par exemple l'éducation artistique. Si aujourd'hui sur un territoire comme une communauté de communes, on commence à pouvoir bâtir un projet en éducation artistique, ben là on est vraiment ancré sur la notion de territoire. On travaille avec un bassin de population et un bassin d'école. On essaye de réfléchir à une logique de projet. Et du coup, on n'est plus sur, l'application des directives ministérielles qui de toute façon ne sont tellement plus accompagnées par des financements que c'est pas la peine de gamberger là-dessus, mais on construit autre chose. On construit une autre façon d'aborder. On va contacter un artiste ou une compagnie qui va venir en résidence pendant un certain temps, et on va faire vivre un événement qui va être suffisamment fort, comme je disais tout à l'heure, pour laisser des traces durables dans la façon qu'ont les gens de voir le monde et voir leurs concitoyens, quoi.
Philippe Saunier-Borel, vous hochez de la tête, vous aussi, vous mettez en œuvre une politique d'éducation artistique sur votre territoire.
Oui, je partage totalement ce qui vient d'être dit, parce que je pense qu'aujourd'hui, souvent avec Marion Vian, on se dit qu'on n'est pas là pour essayer d'avoir plus de spectateurs. Je pense que faut quand même rappeler qu'en France, les théâtres sont pleins. Ils sont pleins des mêmes personnes qui se reproduisent entre eux. Donc, ils sont de plus en plus nombreux. Mais
Ils sont de plus en plus nombreux, oui.
Non, ils sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui vont plus souvent au théâtre qu'avant. Mmh. Mais c'est les mêmes. Et donc, nous, on est là, on n'est pas là pour rechercher faire plus de monde. Parce qu'en général, c'est plein, donc c'est pas la peine. Mais c'est de toucher les autres personnes. Et non pas pour en faire des spectateurs qui consomment des spectacles, mais simplement pour inventer avec eux des temps, de modifier leur regard ou leur rapport, non pas au spectacle, mais à la culture. Et par exemple, les résidences qui sont évoquées là, c'est nous, on passe des commandes c'est des exemples, c'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est juste pour répondre très concrètement. Dans un petit village, on passe des commandes à un duo d'artistes, deux personnes qui n'ont jamais travaillé ensemble, mais qui se reconnaissent et qui, pendant 2 ans, vont interroger le paysage humain de ce territoire-là. Par exemple, c'est une chorégraphe et un créateur sonore, ou c'est un photographe et un plasticien qui vont s'immiscer, rencontrer, travailler avec les habitants du territoire et vont laisser trace. Mais c'est pendant ce temps-là, c'est la relation qui va s'instaurer avec les artistes présents. Et rétroactivement, souvent, par exemple, on a travaillé avec le FUN, par exemple, pendant 2 ans sur l'installation des FUN dans un village, où c'est les habitants du village qui étaient en situation de devoir raconter cette histoire, qui n'avaient pas de lecture donnée, a priori. Et c'est eux qui racontaient cette histoire, parce que les gens venaient, il y a 2 ans, Télérama avait dit qu'il y avait 7 raisons pour venir en Midi-Pyrénées. Et notamment, il y avait de venir voir les feuillus du FUN. Et du coup, les gens débarquaient avec Télérama à la main en disant « on vient voir les feuillus ». Mais ils n'étaient jamais là, le FUN. Il n'y avait que les feuillus, mais ça ne parle pas un feuillu. Du coup, c'est les habitants du village qui se réappropriaient avec une très grande dignité, une très grande fierté, cette histoire qui n'avait pas de lecture donnée. Et c'est eux qui inventaient cette histoire-là. Et un jour, une dame de ce village m'a dit, parce qu'il y a eu une interview de Ferraille sur France 2, et elle s'est aperçue que Ferraille avait été programmé dans le Hymne d'Avignon, à la Villette. Elle m'a dit « mais je savais pas que c'était un artiste ». Sous-entendu, j'aurais pas parlé comme ça, on n'aurait pas pris le café si j'avais su que c'était un artiste. Mmh. Et c'est juste, nos métiers, c'est désacraliser, dédramatiser le rapport à la culture. Et du coup, rendre ça tellement accessible que du coup, naturel. Quand on les invite, après, pour le spectacle qui a lieu pas très loin, ils feront jamais de 80 km pour avoir un spectacle, mais si c'est au bout de la ligne droite ou après le rond-point, ils seront là parce qu'ils y ont droit.
Benoît ?
Oui, je voudrais, pour répondre à ta question de tout à l'heure et poursuivre sur ce que vient de dire Philippe, un des ingrédients, par exemple, qui est facilitateur de cette imprégnation au milieu rural, je crois que c'est l'évolution des savoir-faire des artistes. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens, et par exemple hier à la rencontre de Montaud-les-Créneaux, on avait le cheptel Aleikoum avec Mathieu Despoises qui était présent, qui a vraiment expliqué, en plus il y avait l'élu qui était là aussi de Saint-Agile, donc qui expliquait vraiment la démarche et comment ces artistes, qui au départ se sont trouvés ici, là pour des raisons qui étaient, je dirais, on va dire économiques ou simplement habitationnelles, se sont impliqués d'une façon telle qu'ils ont inventé des formes de relations qui sont déjà artistiques par le seul fait de leur présence et de ce qu'ils dégagent, quoi. Et donc la relation à l'habitant, c'est pas la même chose de voir un artiste débouler chez le boulanger, faut faire ses courses, que voilà. Et donc il y a tout un univers qui se développe, et je crois que c'est une histoire de savoir-faire. Il y a une nouvelle génération d'artistes qui acquiert ce savoir-faire, et ça, c'est à mon avis très important.
Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Le temps nous est un petit peu compté. On a d'autres invités. En tout cas, c'est un débat passionnant, crucial. Et en ces temps de crise, c'est important de rappeler aussi la place qu'a la culture et qu'elle doit avoir aussi, et notamment en milieu rural, auprès de tout le monde.
On merci. Va continuer.
Merci. À vous.
Merci. Mais merci d'être venu. Et puis on va, en attendant de recevoir nos nouveaux invités, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct 24h/24 sur le 103.5 FM. Vous pouvez également nous laisser des messages sur notre répondeur au 05 62 61 65 50. N'hésitez pas à nous soutenir, à dire ce que vous pensez de Radio Circa, du festival. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur internet www.festival-circa.com.
Radio vous écoutez Radio Circa sur 103.5.
Yes, indeed. Here we are. At St. Alfonso's pancake breakfast, where I stole the margarine and wheedled on the bingo cards and blew up the latrine. I saw a handsome parish lady make her entrance like a queen. Why, she was totally chenille and her old man was a marine. As she abused the sausage patty and said, why don't you treat me mean? St. Alfonso's pancake breakfast.
Wow. Get off the bus.
Where I stole the margarine.
Radio Circa, c'est aussi sur internet www.richemania.fr et www.circuit-circa.com.
Et voilà, 103.5 Radio Circa. On continue avec les rendez-vous de midi. Les invités sont nous rejoignent donc pour parler un petit peu de journalisme et de cirque. On a voulu inviter aujourd'hui donc des journalistes de presse écrite pour voir un petit peu la manière dont on traite du cirque, donc dans la presse spécialisée mais aussi dans la presse générale en France et en Grande-Bretagne. Donc nous avons autour des micros Emmanuel Dreyfus qui écrit principalement à la Strada mais aussi dans la presse non spécialisée, donc bonjour. Eric Libio qui lui est rédacteur en chef des pages culture de l'Express.
Bonjour.
Bonjour. Marjolaine Zurflu qui elle travaille à Danser, le magazine Danser, et John Ellingworth qui vient donc de Grande-Bretagne et qui lui écrit dans Sideshow, un magazine donc spécialisé autour du cirque en Grande-Bretagne. Donc pourquoi vous avoir convié autour de ces micros, c'est parce que il nous semble qu'il y a une particularité dans la manière de traiter le cirque dans la presse écrite, c'est-à-dire qu'on en parle peu. Il nous semble, en tout cas, nationalement, on est ici à Circa, un grand festival de cirque actuel qui présente les formes 22 spectacles aujourd'hui, et finalement, la presse nationale, je vais peut-être me diriger d'abord Vers vous, Éric Libiot, pourquoi on parle si peu de cirque dans la presse nationale?
Ben, je ne sais pas, il faudrait demander à mes confrères, mais vous tombez un peu mal parce que moi j'en parle le plus possible et en fonction des spectacles que je peux voir ici ou là, on est deux, trois journalistes à, si ce n'est s'y connaître, en tout cas aimer. On est partenaire du festival de Nexon, donc c'est voilà, j'ai essayé depuis que je suis dans ce journal de d'ouvrir un petit peu à une discipline qui à la fois est très riche et puis qui, c'est vrai, n'était pas du tout présente dans les pages nationales, hein. Donc maintenant on en parle beaucoup moins que le cinéma ou la musique, ça c'est sûr, mais depuis une dizaine d'années on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des telles passerelles entre la musique, le cirque, le cinéma, le spectacle vivant, le rap, la poésie, que du coup quand on parle d'un spectacle, si, même s'il est labellisé cirque, on se rend compte qu'on parle aussi voilà, d'une discipline artistique en général, et on se rend compte qu'il y a des invités, des gens d'autres disciplines qui viennent aussi dans le cirque. Donc cette espèce de mélange des genres permet aussi à un journal, un news généraliste et grand public comme l'Express, voilà, j'espère, d'intéresser le lecteur à une discipline qui peut-être ne connaîtrait pas de même.
Alors, on est dans une discipline qui a une dynamique, hein, depuis plusieurs années, et qui, elle aussi, a des frontières, comme vous venez de le dire, qui sont difficiles à cerner. La preuve en est, puisque nous avons, avec Marjolaine Zurflu de Danser, un magazine spécialisé donc dans la danse, qui s'intéresse au cirque. Ça rejoint ce que vient de dire Éric Libiot.
Oui, ça rejoint un peu ce que dit Éric, c'est-à-dire bon, danser est spécifiquement pour la danse, mais maintenant, avec l'émergence du nouveau cirque et cette espèce de métissage...
Je vais vous tenir le micro.
Ah, merci. Cette espèce de métissage de disciplines, bon, forcément, voilà, on en parle un peu. Surtout que bon, danser est quand même assez ouvert, même si ça reste ciblé sur la danse. On aime bien aller voir quand même un petit peu ailleurs. Voilà.
Et dans l'Express, est-ce qu'il y a une demande de la part des lecteurs particulière? Est-ce que vous avez des retours? Et quel retour vous avez par rapport au cirque, à la manière dont vous le traitez dans le magazine?
Alors là, je vais
vous
faire un cours de journalisme, parce que, pardon de cette prétention, parce que pour moi, le journalisme, c'est pas de la demande, mais c'est de l'offre. Donc, non, mais je dis ça pour rire. Mais
oui, mais c'est important de savoir ce que les gens en pensent. Quand même.
Moi, je trouve que c'est une discipline qui est devenue vraiment intéressante et qui, justement, croise les autres disciplines. Et on peut en parler parce qu'il y a un regard aussi sur le monde. Je me demande pas si les lecteurs vont aimer. Je leur donne. Après, ceux qui le font ou pas. Maintenant, comme la culture et notamment le cirque n'est pas non plus un enjeu à l'Express, je me pose pas la question de savoir si les gens vont plus acheter le journal parce qu'on parle du cirque ou pas. Il se trouve que ça m'intéresse, moi, en tant que rédac-chef, d'ouvrir les pages à cette discipline-là. Après, ce que pensent les lecteurs, c'est pas que je m'en fiche, ça m'intéresse d'avoir des retours, j'en ai pas d'ailleurs. Mais ça m'intéresserait, mais c'est pas la question que je me pose. Moi, je trouve que ça m'intéresse de leur offrir ça. Voilà, après, ils en font ce qu'ils veulent. Hein.
Alors, c'était pas tout à fait le sens de ma question. Mais,
mais bon. Vous me demandiez qu'est-ce qu'ils attendent. Oui. J'en sais rien, moi, ce qu'ils attendent, les lecteurs. Je sais pas du tout.
Oui, oui. En général, on se pose un peu la question.
Ah,
quand même.
Pas moi.
Vous
ne
posez pas la question.
Jamais.
Jamais.
Mais non, pourquoi voulez-vous la poser, la question? Le journalisme, c'est pas de la demande, c'est pas un métier de demande, c'est un métier d'offre. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je considère avec les autres journalistes qui m'entourent, à tort ou à raison, et on peut avoir tort ou raison sur des films, des pièces, des spectacles du cirque, qu'on a envie d'en parler, je ne me demande pas si à 65%, 32%, 22% de lecteurs qui vont trouver ça bien. Nous, ça nous intéresse de faire partager le coup de cœur ou le coup de gueule qu'on aurait eu vis-à-vis d'un spectacle en général. Donc on le fait, point. Voilà. Non, on se demande pas. Et comment voulez-vous qu'on puisse répondre à la question « qu'est-ce que veulent les lecteurs ?» J'en sais rien, moi.
Moi, je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais j'ai l'impression que votre concert à côté n'a pas l'air tout à fait d'accord, non,
Non. Je suis assez d'accord avec lui. En règle générale, on écrit parce qu'on a envie de faire passer, enfin de partager un moment qu'on a vécu en compagnie d'un spectacle qui nous a plu. Après, savoir ce que le lecteur en attend, moi, personnellement, je ne me suis jamais posé la question.
Donc vous...
Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi de... Alors, pour Strada, oui. Qui est vraiment une revue dédiée à la création hors les murs, donc art de la rue... et cirque, et aussi on s'ouvre aussi à d'autres disciplines, puisqu'on voit bien que aujourd'hui les frontières sont très très mouvantes, que ça soit les arts numériques avec les arts de la rue, la danse, les arts de la rue, la danse et le cirque, enfin bon, il y a le graffiti, enfin bon, c'est très ouvert, la création dans les murs, et de nombreux artistes y retournent après avoir été en salle. Et donc au niveau du cirque pour Strada, qui est une revue qui s'adresse, on va dire, à des initiés, même si on voudrait ouvrir un petit peu le public, on parle beaucoup aussi à des programmateurs, à des salles. Donc on met en avant les nouvelles créations dans l'année. Voilà, régulièrement, c'est trimestriel. Hein, donc, donc là, on a vraiment un public ciblé où on parle que de cirque actuel, enfin contemporain. Nous, on parle de cirque contemporain. Mais pour ce qui est des revues, de la presse non spécialisée, je pense que le cirque a un énorme avantage, c'est que c'est populaire, c'est fédérateur. Donc on ne prend pas non plus énormément de risques en mettant en avant certains spectacles.
Vas-y.
Et chez notre ami britannique, peut-être qu'il peut nous expliquer déjà dans quel journal il travaille, qu'est-ce que c'est, et quelle place on accorde au cirque dans son journal.
Could you tell us about your magazine you work for, and what's the place of circus in your magazine?
Sure. I run an online circus magazine. It's dedicated to contemporary circus.
Je travaille pour un magazine en ligne, donc sur Internet, qui est spécialisé dans le cirque.
I sort of understood a little of what people were saying earlier. I guess it's closest to Strada in that it's a specialist magazine, and that it's probably for artists, programmers, people with a real close interest in circus.
Alors, mon magazine est un peu comme la Strada, c'est vraiment spécialisé pour les gens du cirque, hein, pour les programmateurs en particulier.
In the UK, there are mainstream journalists who write about circus, but they write about a very limited number of shows.
Alors, au Royaume-Uni, il y a un nombre limité de journalistes de presse nationale qui parlent juste d'une seule, une petite partie de spectacle.
They write about Cirque du Soleil or a show which is in a very big venue, and they don't write about new graduate companies who are, of course, the kind of the front of the art form.
Il parle plutôt des gros spectacles et pas vraiment des petits spectacles qui sont parfois à la pointe pourtant du cirque.
And so that's why I kind of started up Sideshow, really, to sort of cover what was going on.
C'est pour ça que j'ai voulu créer quelque chose de son magazine en ligne qui traite justement de ce que ne traite pas la presse générale.
Finalement, on retrouve un peu le même style de problématique en France. Alors, je vais m'adresser
à vous.
Pour
savoir, justement, comment vous traitez le festival, par exemple, à l'Express, là, le festival Circa. Est-ce que c'est autour d'un spectacle en particulier, sur la multiplication des propositions? Comment vous traitez
Ah, vous voulez tout savoir. Alors, ça nous intéresse. Il y a deux choses. Vu que c'est un hebdomadaire, donc évidemment, quand je vais le moment où les papiers peuvent sortir, le festival sera terminé. Donc, il y a... Que ce soit un festival comme celui-là ou n'importe quel autre festival, j'y vais et puis je vois un petit peu comment ça se passe et je sais que j'en parlerai en 2012. C'est une chose. Et parce que j'y suis allé, donc je sais, je ne fais jamais des choses sans savoir. Et puis l'autre chose, c'est que les spectacles que j'aurai vus là et qui seront diffusés à droite et à gauche, ben je parlerai en disant qu'ils ont été à Auch, etc. Voilà, c'est les deux façons dont on peut traiter un festival pour un hebdomadaire.
D'accord, donc quand vous parlez de 2012, c'est-à-dire que vous ferez un papier préalable au festival, avant le festival.
Du coup, je saurais à peu près quoi raconter, parce que je saurais comment ça se passe, quel type de spectacle, j'aurais rencontré les uns et les autres. Donc en 2012, pour la prochaine édition, j'aurais un peu des points de repère. Si j'avais fait un papier cette année, j'aurais fait un papier sans aucun point de repère, parce que c'est la première fois que je viens, donc c'est un peu la façon dont on
procède. Vous défrichez cette année, quoi.
Voilà, exactement.
D'accord. Et à danser, comment vous traitez le festival autour du spectacle?
Ça dépend aussi, c'est selon les priorités. Enfin bon, voilà, c'est là pour Circa, c'est la première fois que je viens aussi, donc je sais pas. Des fois, c'est coup de cœur, voilà, aussi sur certains spectacles qu'on a vus. Bon, il est vrai que c'est souvent des spectacles où il y a quand même un lien à la danse.
Oui.
Hein, peut-être pas... voilà, mais ça peut être effectivement soit un peu en avant-première, entre guillemets, pour en reparler par la suite. Ou... Ça dépend vraiment des fois.
D'accord.
Voilà. Bon. Mais on ne va pas faire, par exemple, peut-être deux fois de suite, un article de fond sur un festival. Ou... Voilà, c'est...
Donc là aussi, ça vous allez vous servir un petit peu de ce que vous avez vu ici pour éventuellement, à l'occasion de la diffusion de tel ou tel spectacle, de faire une critique à ce moment-là, d'en profiter.
Oui, oui, ça peut être sous cette forme. Mmh. Ouais. Oui, oui.
Oui, allez-y.
Pour prendre un exemple, le spectacle de hier, donc, de Jules et de Julien, là, donc j'ai oublié le cabaret que je trouve absolument compagnie. Formidable, ouais, ouais. Mais vraiment très très bien. Alors je ne sais pas si c'est du cirque, pas du cirque, mais je m'en fous un peu. Je trouve ce spectacle vraiment formidable. J'ai vu qu'il était en lien avec le festival, avec Circa, avec la région et tout ça. Donc je vais un peu voir ce qu'ils vont faire dans l'année et puis voir les ce qu'ils mettent en place et puis peut-être faire un papier sur une prochaine. Un prochain spectacle lié avec Circa, etc. Voilà, c'est un peu le genre d'approche qu'on peut faire sur un spectacle qui du coup m'a vraiment emballé et je vais essayer de faire partager ce coup de cœur.
D'accord, on en reparlera tout à l'heure un petit peu de ce spectacle. Strada, par exemple, là le festival, il y a des liens assez forts entre Hors les Murs et Circa.
On fait pas d'avant-papier sur le festival Circa, on le traite plus en tant que tel, on le présente plus. Non, on vient là pour assister, pour repérer des créations. Moi, je suis là pour des créations 2011, voire des créations Circa, repérer de nouvelles écritures, éventuellement envisager des démarches ou des itinéraires de compagnie. Des démarches, c'est-à-dire aller au cœur de la création, suivre une création in situ, quoi. En création, en fait. Voilà,
d'accord. Et là, il y en a, par exemple, que vous avez suivi et dont l'aboutissement se réalise sur le festival ?
Non, là,
pas
non.
Pas cette année.
Pas cette année. J'ai un peu suivi, on va dire, certaines créations et installations de Kitsu Dubois, mais pas à proprement parler sous le vertige. Mais bon, on sait que ces créations se nourrissent beaucoup de ces autres spectacles.
Oui, alors peut-être avant de passer à notre prochain invité, juste une petite question à tous nos invités sur le regard que vous portez, votre regard personnel, intime sur le cirque actuel. Voilà, un peu à tous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je peux dire, je trouve que ça doit être difficile pour les jeunes qui arrivent parce que tout a été un peu fait. Et donc, il faut vraiment aller chercher...
Tu veux dire pour ceux qui sortent des écoles de cirque ou qui veulent devenir...
Oui, les compagnies, ouais. Ouais, les nouvelles compagnies, les jeunes pousses. Il va falloir vraiment faire travailler son imagination, sa créativité, expérimenter de nouveaux agrès, de nouvelles écritures.
Pourquoi ? Parce que tu as le sentiment qu'il y a une normalisation dans les propositions ? C'est ce que tu veux dire ?
Parfois.
Oui, il y a un peu ça. Je trouve qu'il y a eu un tel bouleversement depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, qu'aujourd'hui, on est plus dans la déclinaison de ce qui s'est passé plutôt que dans la reprise d'une nouvelle invention. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il faut complètement briser les frontières et ne plus forcément parler de cirque. Mais là, en ce moment, il y a un moment de latence, d'interrogation de la part des spectacles et des artistes, avec des propositions intéressantes, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, on a l'impression qu'il y a eu un cataclysme, qu'aujourd'hui, on se repose un peu et puis on essaie de voir quelle nouvelle voie ils vont prendre. Et donc, du coup, ça devient aussi intéressant, hein, même journalistiquement, à envisager. Mais d'ici 4-5 ans, je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont vraiment émerger.
Et vous sentez des petites pistes les uns les autres vers où ça peut aller ou pas du tout ? Les choses, elles sont encore trop floues et trop en train de se passer sur ce moment de latence un petit peu qu'on vit ?
Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres. Par exemple, hier, j'ai assisté à énormément de choses de musicales, par exemple, parfois avec un petit peu trop de musique. Il y a aussi le film Underman, le film, ouais. Lequel lapsus, parce que ça me faisait penser à un film de Coris Maki, c'est pour ça que c'est, je parle de cinéma, et qu'on sent qu'il y a aujourd'hui des influences qui viennent de partout et qu'elles sont pas encore forcément totalement maîtrisées, mais qu'aujourd'hui, à la fois les agrès, à la fois l'humeur qu'on veut donner au spectacle, il y a sans doute beaucoup plus d'humour qu'il y a quelques années, par exemple. Alors c'est peut-être par là, c'est peut-être par une redéfinition de l'humeur et de la couleur qu'on veut donner plutôt que par le travail sur les agrès proprement dit. Ça va, j'en sais rien, ça peut déboucher là-dessus.
Une interrogation en tout cas. Marjolaine.
Eric a tout dit.
Vous aussi qui avez un puissant regard par rapport à la danse, donc
oui,
ça doit être.
Non, ce qu'il y a aussi par rapport à peut-être. Enfin, moi je trouve que ça fait 30 ans que ça.
Que ça bouge.
Que ça bouge, oui. Ah, oui. Ouais. Bien 30 ans, puisque déjà dans les années 80, ça bougeait pas mal. Mais maintenant, avec. Il y a beaucoup plus d'écoles, donc beaucoup plus de gens formés. Et effectivement, il y a énormément de jeunes et de personnes qui font du cirque, entre guillemets. Alors, où vont-ils aller? C'est vrai que c'est un questionnement, un peu. Voilà. On a l'impression, effectivement, que ça puise de plus en plus vers des choses larges, quoi. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. On attend un peu de...
La suite.
Ouais.
On va traverser la Manche pour voir justement quel regard, John, tu portes sur le cirque actuel ou contemporain.
What do you think of contemporary circus now, Dave?
That's very broad.
C'est large.
I guess I don't know the French scene that well, but the UK situation is very different.
Je pense que je connais pas très bien la scène française, mais il me semble qu'au Royaume-Uni c'est assez différent.
I guess I characterize it as now there are a lot of young companies, a lot of new graduates who, but there's not so much of an infrastructure to support them.
Il y a beaucoup de nouveaux circassiens, de jeunes qui font du cirque, mais il n'y a pas vraiment d'infrastructure qui les chapeaute.
So we rightly or wrongly look to France and see it as a paradise with innumerable creation centers and permanent circus venues and things that we don't have.
Et donc du coup on regarde vraiment du côté de la France et on trouve que c'est un petit peu le paradis pour le cirque et on est beaucoup influencé par ça.
But I'd say those initiatives are kind of in process in the UK and that it's probably quite circus has been on an uprise. It's an exciting time for circus, I think.
Et en Angleterre, c'est vraiment une période tout à fait enthousiasmante pour le cirque, puisqu'il y a vraiment de nouvelles initiatives qui explosent un peu partout.
Eh bien, on va vous remercier de ce petit tour de table rapide. On aurait eu le temps de rediscuter un petit peu.
Mais comme
vous reviendrez sûrement les uns et les autres sur le festival, on prendra le temps de passer plus de temps à votre compagnie. Merci en tout cas à vous d'avoir répondu à ces quelques questions. Et on continue avec un petit peu de musique. Et ensuite, on retrouve Isabelle Cochetier pour parler aussi de spectacle vivant et de cirque au sens donc large. Merci.
Fais le clown et écoute Radio Circa.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor,
doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love,
Radio Circa 103.5, les rendez-vous de midi. Nous sommes toujours en direct de la Maison de Gascogne et on commence un nouveau rendez-vous que nous avons appelé Regards croisés. Et la première à inaugurer cette formule, c'est Isabelle Cochetier, qui est psychologue, qui travaille à la Maison des Adolescents ici à Auch et également au CMPP. Et tu as vu donc Isabelle deux spectacles, donc Underman et le cabaret de Crida, donc de la Crida Company. Et c'est autour de ces deux spectacles dont nous allons parler.
Oui. Donc bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Première des choses. Alors, le premier ressentiment après avoir vu ces deux spectacles, en tant que psy peut-être ou en tant que...
Personne.
En tant que personne, parce qu'on n'est pas tout le temps psy.
Non, tout à fait. Mais forcément, on a des préconçus qui nous font entendre les choses peut-être d'une autre manière. Mais effectivement, il s'agissait de choisir un des deux spectacles pour en parler aujourd'hui. Et finalement, après les avoir vus tous les deux, il me semble que c'est intéressant de pouvoir justement croiser ces regards sur ces deux spectacles qui me semblent dire des choses intéressantes sur la manière dont on peut percevoir un spectacle et le monde même de manière générale, en fait. Voilà. Donc, Underman, quand je suis sortie, j'ai trouvé que j'étais un peu frustrée. C'était à la fois un décalage avec le public parce qu'il y avait une ovation, il y a eu un accueil terrible, une ambiance, beaucoup de générosité de la compagnie, quelque chose de très, de très chaleureux. Ça passait bien, ça a fonctionné. Mais moi, j'avais un espèce de goût de... de trop peu, enfin de que quelque chose d'être passé à côté de ce qui aurait peut-être pu être dit et en tout cas me toucher. Voilà pour Underman. Alors que le propos m'intéressait, on va dire, d'emblée.
Et ce propos, justement ?
Alors, le propos, c'était effectivement l'idée de trois porteurs qui avaient finalement comme fonction et comme mission dans la vie de n'exister que comme porteurs, en fait, et de n'avoir toujours que porter, qui se retrouvaient sans personne à porter, abandonnés par leur éventuelle portée.
Un super cas pour un psy.
Ah bah oui, c'est intéressant. À la fois peut-être trop même, mais mais je trouve que justement, ils essayaient tellement de nous expliquer les choses. Ils ont tellement, c'est un peu ce vers quoi je vais aller après. Il y avait une dimension très très éducative, pédagogique pour nous expliquer à quel point on peut se retrouver sans portée, que finalement on passait à côté de l'émotion que ça pouvait suggérer. Enfin, en tout cas pour moi. Sur qu'est-ce que c'est que cette perte aussi forte quand on a existé que comme ça, enfin, ou qu'en tout cas on pense avoir existé que comme ça et n'être que ça, et voilà. Pour Underman, je suis à la fois c'est un peu c'est très personnel parce que j'ai senti que c'était pas forcément la résonance que ça avait chez les autres, mais moi je l'ai ressenti sur un versant effectivement très éducatif, pédagogique, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est pas forcément
performance aussi peut-être.
Oui, voilà, enfin c'est pas forcément négatif de d'essayer de sensibiliser à une culture, d'intéresser à une problématique qui est celle de la différence, de comment on peut trouver de la force en soi quand on se sent démuni. Enfin voilà, quelque chose de l'ordre du social, de l'éducatif, qui est aussi un propos intéressant, mais qui est pas forcément celui moi qui va venir me toucher et qui sur lequel je travaille.
Que c'est déjà la deuxième partie, c'est déjà quand on commence à s'en sortir, alors qu'avant on est d'abord démuni et donc faible et peut-être complètement dans le désarroi.
Voilà.
Et là c'est l'émotion et les sentiments qui parlent, et c'est peut-être ça donc finalement qui manquait selon toi dans le spectacle.
Enfin, qui m'a manqué, en tout cas.
À toi, personnellement,
je ne veux pas représentatif de quoi que ce soit. Mais en tout cas, oui, moi, j'ai trouvé. Et c'est, par contre, pour rebondir sur Cabaret Crida, ce que j'ai aimé dans Cabaret Crida, qui est un spectacle complètement imparfait, qui peut être dissonant, qui peut être très décalé. Enfin, je pense pas du tout que c'est le meilleur spectacle de la nuit des temps. Mais en tout cas, moi, il m'a touchée, en fait, parce qu'effectivement, ça vient montrer l'imperfection dans laquelle on est tous, ce petit à la fois grain de folie et à la fois ce côté où des fois on comprend pas tout, mais on le fait quand même. Il y avait un côté très authentique en fait dans la manière dont il se présentait, et pour à la fin donner un groupe qui était vraiment très touchant, quoi, cette scène avec les sabots là. J'ai trouvé que c'était,
il y en a qui est à la traîne quand même.
Oui, mais justement c'est ça la vie aussi. Ouais. Il y en a qui sont à la traîne, on n'est pas tous en même temps, on se portent pas tous au même moment, et c'est formidable. Enfin voilà, il y a quelque chose où il y a quelque chose de la richesse de chacun en fait, qui était vraiment, ils avaient pas besoin de le dire. Voilà, dans Crida, ce qui est sympa, c'est que ils ont pas besoin de nous le dire, on le ressent en fait. Il y a quelque chose de l'imperfection, du non-dit. Et après, du coup, je me suis intéressée un peu à eux, et à travers leurs photos, je trouve que c'est la même chose, quoi. Puis,
parce que disons que Crida Compagnie, ils ont un panel d'intervention très large, hein, donc il y a ce qu'on connaît d'eux ici à Circa avec le cabaret qui était proposé. L'année dernière, il y avait un spectacle High, mais aussi ils interviennent avec Jour, hein, qui joue, donc qui chante, mais aussi de la photo. Hein. Là aussi, ils avaient exposé l'année dernière des photographies.
Ils suintent l'artistique, en fait. Ça sort de tout leur port, de leur peau, et c'est ça qui est très intéressant. Et alors, à travers elles, qui transcendent un peu la chose, quoi, mais qui n'écrasent pas les autres non plus. Je trouve que chacun, avec sa personnalité, avec ce qu'il est, on n'est pas tous des leaders, on n'est pas tous des... Voilà, chacun peut venir dire quelque chose. Et c'est ça qui finalement vient toucher, plus que finalement le fait de dire « on veut dire que ». Moi, je crois que quand on veut dire que, on est toujours à côté, de toute façon. Donc, voilà.
Il faut arriver à le dire bien, et le message, on n'arrive pas toujours à le contrôler jusqu'au bout, et pas forcément compris non plus par les autres.
Oui, puis je ne sais pas si ce que eux voulaient dire, je ne sais pas si c'est ce qui a été perçu par le public, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été perçu, quoi. Voilà.
Et toi, personnellement, le cirque, tu l'as découvert comment, quand Alors... Qu'est-ce que tu voulais dire, Fred?
Non, pas du tout, je rigole parce que je connais la réponse.
Il pouffe. Non, mais moi, j'ai une double... un double intérêt.
Tu es psy pour les circassiens.
Non, pas du tout. Mais je suis mariée à un monsieur qui est dans ce milieu. Voilà. Donc je suis forcément
psy à domicile.
Je suis forcément happée par ce milieu. J'en mange à plein niveau. Que voilà. Mais donc voilà, c'est un milieu duquel je suis proche en tout cas. Voilà.
Je crois comprendre.
Si proche qu'on va aussi te réinviter, puisque je ne sais plus si c'est jeudi ou on rediscute.
Mercredi.
Donc autour d'un spectacle, donc la géométrie de caoutchouc d'Aurélien Bourri, la compagnie 111, où là vous serez quatre à le décortiquer, ce spectacle, avec quatre visions, points de vue différentes. On espère que ça, on souhaite et on pense que ça sera un débat nourri entre vous quatre.
Mais là, je crois qu'on a, on a largement rempli notre mission, hein, on dirait, du 12-13h.
Alors là, on peut dire
nous pousse même, je crois, vers la sortie.
Ou gentiment, quand même.
Gentiment.
Ouais. On va te remercier, Isabelle. Tu voulais rajouter quelque chose?
Non. J'avais un petit lien qui me faisait, dont on a parlé avant, qui me faisait effectivement penser. Moi, je travaille beaucoup avec des groupes, en fait, des groupes thérapeutiques, du psychodrame, etc. Et finalement, le lien qui m'est venu entre ces deux spectacles, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui serait vraiment du groupe thérapeutique éducatif. On va tous ensemble se mettre et préparer à manger et faire un beau gâteau. Et le gâteau, il sera beau, il va nous plaire. Et voilà. Ça, ce serait plus le groupe éducatif. Et puis des groupes qui sont peut-être plus douloureux, archaïques, enfin voilà, par exemple le psychodrame, où là on va venir dire des choses de nous-mêmes, et où là ça sera peut-être moins joli, moins agréable, mais où voilà, il y a autre chose qui voilà. Et moi effectivement je suis plus dans ce champ des deuxièmes groupes, et c'est peut-être pour ça que Cabaret Crida m'a plu.
Voilà. Le deuxième groupe qui est voilà, qui est plus proche de Crida Company.
Voilà.
Très bien. On aura bien compris. Merci de ces propos. On clôture cette émission, donc les rendez-vous de midi. Dans quelques petites minutes, ça sera l'heure de retrouver les écoles avec un jour une école. Donc à tout de suite.